Nous prenons le temps de la prédication maintenant et vous pouvez préparer vos Bibles. On va reprendre un peu le parcours qu'on avait mis en suspens dans l'épître de Paul aux Romains. Et aujourd'hui, nous lisons le chapitre 4. Mais avant de lire les Écritures, nous voulons prier. Seigneur, voilà, nous avons eu tant de beaux témoignages que ta parole est vivante et qu'elle peut transformer des vies. Seigneur, c'est avec le concours et le secours de ton esprit que nous voulons la lire maintenant et l'entendre encore. Seigneur, que tu nous inspires, moi dans mes mots et ton peuple dans sa réception, dans son écoute, de sorte que, Seigneur, tu nous vivifies par ta parole. Amen. Donc l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 4. Et comme ça fait très très longtemps qu'on a mis en suspens la série de prédications que j'avais commencé, je vais faire un tout petit résumé. Mais bref, Paul écrit à l'église de Rome, et l'église de Rome est une église qu'il n'a jamais rencontrée personnellement. Mais il a un grand projet, il veut aller jusqu'à Tarsis, qui est en Espagne. Parce que pour lui, Tarsis, c'est le bout du monde connu. Il n'y a plus rien à l'est, à l'ouest. On ne connaît pas encore le continent américain. Et du coup, le bout du monde, pour lui, c'est l'Espagne. Et il veut faire de Rome une base arrière pour pouvoir lancer son projet missionnaire vers l'Espagne. Alors il écrit à cette église qu'il n'a jamais connue, et il écrit cette lettre un peu étonnante où il fait un exposé magistral un peu de tout ce qu'est l'Évangile. Et dans cette lettre, au premier chapitre, il va commencer par, parce que son projet là, c'est d'arriver à poser Christ comme étant le centre et le chemin du salut. Il va commencer par faire un peu le constat du monde dans lequel on est, et notamment du rapport des non-croyants, de ceux qui n'ont pas le vrai Dieu, les païens, comme il les appelle, et de parler de cette colère de Dieu qui se manifeste dans le monde. Ce n'est pas une colère d'un Dieu qui envoie des foudres et des éclairs depuis le ciel, mais une colère d'un Dieu qui livre les humains à leurs propres passions. Plutôt que de endiguer, de garder les choses, de bloquer, d'empêcher qu'eux, il dit, puisque tu veux réellement le faire sans moi, vas-y, vraiment. Et au lieu de nous retenir, quelque part, il nous livre, il nous laisse libre cours à nos passions. Et Paul décrit que beaucoup de violences, d'abus, d'injustices qui ont lieu dans ce monde sont le fruit et la manifestation de cela. Et dans le deuxième chapitre, il va parler de ceux qui ont reçu la loi de Dieu, les Juifs. Mais pour dire quelque part la même chose, à savoir, vous avez reçu la loi de Dieu, donc vous connaissez Dieu, et pourtant, dans votre cœur, on retrouve les mêmes choses. Là aussi, de la jalousie, de l'envie, de l'orgueil, du jugement. Et ça pour dire que cette loi de Dieu, si elle révèle vraiment qui est Dieu, elle n'est pas un remède à ce péché qu'il y a en nous. Et c'est ce qu'il va aborder au chapitre 3. En disant, finalement, alors du coup, ça ne sert à rien de connaître la loi de Dieu. Il dit, si. Parce qu'elle nous montre réellement qui il est. Et celui qui sincèrement s'acharne à essayer de pratiquer toute la loi de Dieu, au final, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir, comme nous l'a rappelé David, qu'on n'y arrive pas. Mais beaucoup de Juifs à l'époque de Jésus s'illusionnaient à y arriver, s'auto-persuadaient qu'ils étaient justes, des propres justes, parfaits, et se permettaient de cette justice autoproclamée de juger et de dominer les autres. Et cette loi qui devait les conduire à l'humilité les a conduits à l'orgueil. Cette loi qui devait leur montrer que, cette loi que je veux vivre de tout mon cœur, Seigneur, me montre que mon cœur il a un problème, finalement les a conduits à l'orgueil. Et c'est alors à la fin du chapitre 3 que Paul présente la solution de Dieu. En fait, le remède, ce ne sera pas une obéissance, le remède, ce ne sera pas une pratique, le remède, ça va être que moi, je vienne dans ta vie transformer ta vie. Ça va être que moi je vienne, je prends ta faute et je la porte sur moi, et c'est moi qui me charge de ton péché. Jésus-Christ. Et ça nous conduit au chapitre 4. Parce que du coup, qu'est-ce que fait Paul ? Il dit aux Juifs, ben voilà, toute votre pratique, elle ne servait pas à vous sauver, elle servait juste à vous montrer que vous avez besoin d'être sauvés. Donc vous pouvez la balayer maintenant parce que Jésus est là. Et pour un Juif de l'époque de Paul, héritier de siècles de tradition, Paul qui dit tout ça maintenant, vous pouvez l'escamper, eh bien, ils ont l'impression de trahir. Ils ont l'impression de renier leurs origines, ils ont l'impression de rompre avec tout leur passé, et tout leur héritage, et le temple, et la tradition, et la loi, et tout ça je dois mettre à la poubelle. Mais non, je trahis mon Dieu en faisant ça. Alors pour les convaincre qu'ils ne sont pas en train de trahir leur Dieu, Paul va prendre une figure incontestablement juive. Et cette figure, c'est Abraham, le père des croyants, comme on l'appelle chez nous. Et je vous invite à lire maintenant les premiers versets de l'Épître aux Romains au chapitre 4. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre, selon la chair ? Qu'a-t-il obtenu ? Si en effet, Abraham avait été justifié par ses œuvres, ben il aurait sujet à se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que disent les Écritures ? Il est écrit, Abraham a cru à Dieu et cela lui fut compté comme une justice. Or, celui qui fait une œuvre, qui travaille, le salaire qu'il reçoit n'est pas compté comme une grâce, mais comme un dû. Mais celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi à lui, lui est comptée comme justice. De même, le roi David proclamait le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice, sans les œuvres. Il écrivait David, « Heureux ceux dont les péchés sont pardonnés et ceux dont les iniquités ont été couvertes. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. » Alors, ce bonheur est-il uniquement pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis ? Car nous disons que Abraham, pour Abraham, la foi fut comptée comme justice, mais lorsqu'il a reçu cette justice par la foi, était-il circoncis ou incirconcis ? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Il a reçu le signe plus tard de la circoncision, comme un sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. Il est donc le père de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit comptée. Il est aussi le père des juifs circoncis, qui n'ont pas seulement la circoncision, mais qui marchent dans les traces de la foi de notre père Abraham. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Tout cet héritage juif, cette loi, ces règles, le kasher, les fêtes, toutes ces choses-là peuvent se résumer à un symbole, la circoncision. C'était cette marque dans la chair que les Juifs pratiquaient sur leur fils pour se mettre à part des autres gens. Voilà, une sorte de marque de leur sainteté, qui sont distingués des autres. Et ceux qui reçoivent cette circoncision sont appelés, eux et leur famille, à pratiquer toute la loi de Dieu. Et du coup, Paul de dire, bon, regardez, si on regarde l'histoire, Abraham, le père de la nation juive, c'est lui qui a reçu la circoncision que vous pratiquez aujourd'hui. C'est de lui dont vous êtes tous issus. Que raconte l'histoire ? Que raconte l'histoire ? L'histoire raconte que, un soir, ils ont parlé avec Dieu, et Dieu lui a fait une promesse incroyable. Il a dit, tu peux compter les étoiles ? Abraham a essayé, puis il a dit, ben, non. Et le texte dit que Dieu l'a fait pour lui. Dommage, ils ont pas noté. Et Abraham, et Dieu lui a dit, tu vois, ben, ta descendance sera aussi nombreuse. Abraham avait 100 ans. Ça faisait un moment qu'il était en couple avec Sarah. Pas un seul enfant s'est pointé. Et juste un peu plus loin, on peut lire, là dans, toujours dans le chapitre 4, au verset 17. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, dit Dieu. Il est notre père à tous devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'est pas. Espérant contre toute espérance, il a cru et devint ainsi le père d'une grande nation, selon ce qu'il avait été dit, « Telle sera ta descendance. » Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans et le sein maternel de Sarah était déjà mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Qu'est-ce que c'est que la foi ? Alors déjà, c'est pas une doctrine. C'est pas croire que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. C'est pas croire que la Bible, la parole de Dieu. C'est pas croire que Dieu ressuscite les morts. C'est pas croire ces choses-là. Non. Ça, ce sont des doctrines. Ça veut dire, ce sont des enseignements, des réflexions, des articulations que nous, les chrétiens, nous construisons à partir de tout ce qu'il y a là-dedans et de notre sagesse faible, mais voilà. La foi, c'est une relation à quelqu'un. Je sais pas, à quelque chose, mais à quelqu'un. À quelqu'un. Donc on peut remplacer le mot foi par confiance. Est-ce que vous avez foi en Dieu ? Ça ne veut pas dire, est-ce que vous croyez qu'il existe ? Ça veut dire, est-ce que vous savez qu'il existe ou c'est même pas. Ça veut dire, est-ce que vous avez confiance en lui ? Paul, dans une épître, dit, les démons croient aussi en Dieu et ils tremblent. Ils savent peut-être bien mieux que nous que Dieu existe. Donc, croire en Dieu, avoir la foi, c'est pas simplement une connaissance ou une conception du monde, c'est une relation de confiance. Une relation de confiance où, en fait, nous avons trouvé la réponse à deux questions, choisi que la réponse à deux questions était « oui ». Et ces deux questions, c'est est-ce que Dieu est bon ? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il a la puissance de faire ce qu'il promet ? Voilà. Si vous répondez oui à ces deux questions, vous êtes dans la foi. Après, Jésus qui meurt sur la croix, on va voir après que ça répond plutôt au comment. Mais pas que. La foi, c'est donc répondre à ces deux questions. Est-ce que Dieu est bon ? Est-ce qu'il a la puissance de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire ? Parce que Abraham rencontre ce Dieu dans l'histoire. Il habitait à Ur, en Chaldée, du côté de Babel, si vous voulez. Il vient sans doute de ce peuple-là. Et il y a une voix qui lui parle, qu'il n'avait jamais entendue, que personne d'autre ne connaissait, et qui dit, ben, en fait, je suis Dieu et je vais être ton Dieu, et tu vas être mon prophète, et puis on va faire des tas de choses ensemble. Et si tu veux bien marcher avec moi, on part pour un pays lointain. Et Abraham est parti, il a fait confiance, et puis il a appris à connaître, en cours de route, ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et en fait, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il est bon, ce Dieu ? Quand il nous dit quelque chose, est-ce qu'il est sincère ? Est-ce qu'il est fiable ? Est-ce qu'il est tricheur ? Est-ce qu'il est fourbe ? Vous dites, évidemment que non. Mais pour repenser à l'histoire des Israélites, repenser à l'histoire dans le désert, repenser aux 12 espions qui vont... Moïse... les 10 plaies d'Égypte, la mer qui s'ouvre en deux, les 10 commandements, ils arrivent et tout, paf, le mont Sinaï, le veau d'or, ça, Dieu qui garde et tout, et ils arrivent au pays promis. Ils envoient 12 espions, oh, le pays est superbe, top. Mais alors, il est rempli d'un peuple face auquel on n'a absolument aucune chance. On va se faire, mais rétamer, c'est foutu. 10 espions sur 12. Et le peuple dit quoi ? Il se tourne vers Moïse et dit oh, « Il a fallu que tu nous fasses faire tout ce chemin pour qu'on crève là. T'aurais pas pu nous laisser tranquillement en Égypte, quoi. » Donc au final, c'est sadique de la part de Dieu de nous avoir fait miroiter un paradis sur terre pour au final nous... Ils sont allés jusqu'à se projeter que Dieu était sadique, quoi. Est-ce que Dieu est bon ? Est-ce qu'il est lumière ? Est-ce qu'en lui, il n'y a pas de triche, d'intrigue, de sournoiserie ? C'est la première question. La deuxième question... Est-ce qu'il a la puissance de faire ce qu'il me promet ? Vous êtes entouré de gens qui vous aiment. Je vous le souhaite en tout cas. Et malgré le fait qu'ils vous aiment, ils ne peuvent pas tout pour vous. Malgré le fait qu'ils vous aiment et qu'ils vous souhaitent du bien, ils n'ont pas toujours les moyens de changer vos vies, de vous aider ou de vous accompagner jusque là-haut. Vous aimeriez. Il y a ce qu'on souhaite et ce qu'on peut faire. Hein ? Et on apprend avec l'expérience et la sagesse, et j'espère que plus vous aurez des cheveux blancs et plus vous le savez, que des fois il ne faut pas que nos mots dépassent ce qu'on, et qu'on ne peut pas promettre plus que ce qu'on peut réellement faire. Et on apprend à dire non, ça je ne m'y engage pas parce que je sais que je n'y arriverai pas. Comme moi, avec l'organisation et la discipline. J'apprends à dire, est-ce que tu peux me rappeler, m'envoyer un texto pour que je n'oublie pas ? Parce que je me connais. Et quand Dieu promet à Abraham une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, alors qu'il a 100 ans et que sa femme est stérile, il peut se poser la question, mais est-ce qu'il a les moyens de faire ce qu'il prétend faire ? De manière plus difficile, nous avons enterré Mathis il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Un enfant de 12 ans pour qui nous avons prié pendant tant d'années. Les mêmes questions se posent. N'es-tu pas bon, Seigneur ? N'es-tu pas tout-puissant ? Alors pourquoi ? Mais la confiance que Abraham a eue à Dieu et la confiance que nous sommes appelés à poser en ce Dieu n'est pas aveugle. Elle ne repose pas sur rien, d'une part. Et d'autre part, il y en a qui croient des fois que la vraie foi, c'est celle qui est complètement aveugle et qui ne réfléchit pas. Non. Non, non. Et d'autre part, ce n'est pas un choix par défaut. Parce que si Dieu n'est pas bon, si Dieu est pervers, alors on est... C'est les méchants qui vont gagner dans ce monde, et donc on n'a plus aucune espérance pour la justice et pour le bien. D'autre part, si Dieu, il est bien brave, mais qu'il n'est pas tout puissant, oui, on peut monter dans le bus parce qu'on n'a rien de mieux, mais est-ce qu'on est sûr qu'il va atteindre la destination ? Dieu va nous dire, je vais faire tout ce que je peux, mais c'est pas garanti. Donc si Dieu n'est pas pleinement bon ou pleinement tout-puissant, c'est pire. Donc on pourrait se dire, tu crois que ton Dieu il est bon, il est tout-puissant, mais c'est par défaut, parce que si c'est pas vrai, il sert à rien, ton Dieu. Mais ce n'est pas une foi par défaut qui nous est demandée, et ce n'est pas une foi aveugle qui nous est demandée. Et pourquoi ? Eh bien, précisément à cause de Christ. Et c'est là que j'avais dit que Jésus est plutôt le moyen par lequel Dieu nous sauve, mais il est aussi la preuve. La preuve de quoi ? Si Jésus c'est réellement Dieu fait homme, si Jésus c'est vraiment Dieu fait homme, alors, en fait, il nous aime. Ça, on ne peut pas en douter. Alors, en fait, il est vraiment bon pour nous. Parce qu'il décide de prendre sur lui la faute, le péché, etc., et de régler tout ce qu'il y a entre lui et nous. Sur sa personne. Et d'endurer tout ce qu'il y a à endurer sur sa personne. Et je ne parle pas des souffrances de Christ ou de ce que le Seigneur a traversé. Ce n'est pas de ça dont je parle. C'est de sa détermination à se réconcilier avec nous et à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une réconciliation entre lui et nous. Et cette détermination de Dieu à nous sauver montre son amour et son attachement pour nous. Et l'œuvre du Christ, donc ça c'est son sacrifice quelque part, et la résurrection du Christ nous prouve de quoi il est capable. De quoi il est capable. Donc sur ces deux questions, est-ce que Dieu est bon, est-ce qu'il est puissant ? Si je crois que Jésus s'est sacrifié, offert, et qu'il est réellement ressuscité, j'ai une réponse. J'ai une réponse dans l'histoire. Dans l'histoire de l'humanité, dans mon passé de chrétien. Ça ne veut pas dire que dans les jours que je traverse, il n'y a pas des fois une dissonance. Et l'histoire de Matisse et certaines de vos histoires personnelles que je connais, où il y a de la souffrance, créent une dissonance. Quelque chose qui, une note qui est fausse dans l'accord. Et ça nous met en tension. Et là, il est question de marcher par la foi. À savoir, cette croix de Christ qui est derrière moi, que je crois historique et vraie, cette mort et cette résurrection, ce sacrifice et cette exaltation. Et puis tous les petits ruisseaux qui viennent y abonder à cette source d'eau en moi, la beauté de la création, l'amour de mes frères et sœurs, des signes, des clins d'œil du Seigneur qui vont paver nos routes, viennent comme grossir cette source qui vient de la croix. Ça n'enlève pas la dissonance. Mais je peux m'y appuyer pour traverser. Et quand la souffrance diminue, la dissonance va diminuer aussi. Mais vous ne pourrez pas l'enlever. Parce qu'on n'est pas fait pour ce monde. Ce monde, il est brisé de toute façon. Et qu'aussi certainement que vous avez un nombril, vous allez souffrir. Mais gardons la foi, parce que le Seigneur va restaurer ce monde et le transformer. Il va restaurer vos corps et vos cœurs et les transformer. Alors, être bon, être doux, être patient, être miséricordieux, être vulnérable, être généreux, et toutes ces choses-là, qui aujourd'hui peuvent nous conduire à notre perte, à être un loser, seront la vérité, la norme et la lumière pour tout le monde. C'est ce que nous croyons. Alors, je reviens à ce texte pour terminer. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons des bonnes choses. Nous sommes sauvés parce que nous avons confiance. Nous avons confiance que ce Dieu peut faire de moi quelqu'un de juste. Comment ? C'est son problème. Mais moi, j'ai confiance que lui peut faire de moi quelqu'un de juste. Alors il me justifie.